C'est dans l'actu, midi, midi 30 sur Leur FM.
C'est dans l'actu sur Leur FM et aujourd'hui, on vous propose un zoom sur l'actualité du pays voisin, le Grand-Duché du Luxembourg. Ça va être comme ça jusqu'à midi et demi avec notre invité Vincent Hein, le directeur de la fondation IDEA. Avec lui, nous allons évoquer notamment l'accès au logement, le bilan et les perspectives après les dernières législatives, la démographie, mais nous ferons également un point sur la situation du pays qui est entré en période de déclin économique. C'est parti pour C'est dans l'actu jusqu'à midi et demi sur Leur FM.
C'est dans l'actu, midi, midi 30 sur Leur FM.
Bonjour Vincent Hein.
Bonjour Marco.
Bienvenue sur l'antenne de Leur FM. On rappelle que vous êtes le directeur de la fondation IDEA au Grand-Duché du Luxembourg. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce n'était qu'une hypothèse en octobre dernier, mais c'est désormais officiel. Le Luxembourg est en récession, donc en période de déclin économique. Le Statec a d'ailleurs revu ses prévisions de croissance pour 2023 à la baisse à moins 1% contre les 1,5% positifs précédemment. Comment on explique cette situation aujourd'hui dans l'imaginaire collectif? On a du mal à se dire, Vincent, que le Luxembourg ralentit au niveau économique.
Les chiffres sont encore provisoires. Maintenant, on verra s'ils sont révisés. Mais oui, clairement, c'est quand même une inquiétude. C'est-à-dire qu'en 2023, le Luxembourg a créé un peu moins de richesses qu'en 2022. Alors tout ça, c'est très abstrait. Mais derrière, il y a des choses assez concrètes quand même. Il y a, je pense, deux phénomènes qu'il faut voir. Le premier, c'est que la conjoncture internationale et surtout la hausse des taux d'intérêt, elle a un petit peu pesé sur la place financière. Et puis, comme vous le savez, bien sûr, la place financière, c'est le moteur économique du Luxembourg.
Tout à fait, oui.
Et il y a à côté de ça un autre effet, et pour le coup, là, qui est très visible de la hausse des taux d'intérêt, c'est une situation moins bonne dans le secteur de la construction. Maintenant, il y a encore quand même quelques indicateurs qui sont positifs. Le Luxembourg a continué à créer des emplois, mais ça ralentit. Et il y a un autre indicateur qui est à surveiller d'assez près, c'est que les recettes fiscales, les finances publiques, la santé financière de l'État, elles se trouvent un petit peu affectées par ça.
Effectivement, justement, la passerelle est toute faite concernant un certain ralentissement de l'emploi salarié et un taux de chômage qui remonte, qui pourrait se rapprocher des 6% pour cette année 2024. On parlait notamment du secteur de la construction qui tire un peu la langue aujourd'hui. D'autres secteurs également sont en difficulté. Quels sont-ils, Vincent?
Alors, c'est surtout le secteur de la construction qui a
c'est
détruit
un emploi
des emplois.
Hein, ouais.
Au Luxembourg, le secteur de la construction, c'est un emploi sur 10. C'est beaucoup plus que la moyenne européenne. C'est justement lié au fait qu'on construit énormément de logements, d'infrastructures, public, privé, des bureaux, etc. Donc tout le monde le voit, le Luxembourg c'est comme le pays des grues.
Oui.
Et ben quand ça va mal, ça va se sentir. Donc là, un des points qui est assez important aussi, c'est que vos auditeurs l'ont constaté, les taux d'intérêt ont quand même beaucoup augmenté.
Tout à fait, ouais.
En 2022 et 2023. Et quand vous voulez construire un logement, acheter un logement neuf, qui est le principal déterminant de l'activité de la construction, les nouveaux appartements qu'on vend, vous avez un écart entre le moment où vous signez, le moment où ça va être mis en chantier,
ouais.
Et surtout le moment où c'est restitué entre 2 et 3 ans.
Donc si là, voulez, logiquement, on va rentrer dans une période de creux.
On est en train de rentrer dans le creux. Et
oui.
Là, on a déjà eu en fin d'année dernière et récemment des annonces de faillite au Luxembourg, des sociétés de construction qui se portaient plutôt bien aussi, qui ont annoncé
des licenciements. C'est quelque chose d'assez incroyable. Au Luxembourg, une société de construction qui dépose le bilan, c'est quelque chose de... Voilà. Forcément à laquelle on ne s'attend pas.
Bah effectivement, après quand vos taux d'intérêt passent de 1,5 à près de 5%,
on évite étouffé, hein.
Sur un appartement, ouais. Qui vaut entre 500 000 et 1 million d'euros, vous vous rendez compte un petit peu du surcoût que ça représente pour les ménages. Les salaires ont augmenté au Luxembourg, ils ont suivi, il y a eu des indexations, il y a eu des baisses d'impôts, mais il aurait fallu qu'ils augmentent beaucoup plus pour compenser la perte de pouvoir d'achat immobilier.
Justement, comment on va amortir? On parlait de ce creux qui est déjà entamé. Concernant ce secteur d'activité aujourd'hui, quelles sont les dispositions mise en place par le gouvernement? On rappelle qu'il y a eu les dernières législatives notamment, il y a énormément de défis et d'enjeux qui sont présents et qui se présentent face au gouvernement du pays voisin pour amortir par exemple ce petit recul économique, cette profession qui va mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être mis en place? Qu'est-ce qui est déjà mis en place?
Alors, si on fait un peu d'histoire courte, on a eu quand même les dernières années une pandémie mondiale. Donc
oui.
Là, on a sorti le carnet de chèques un peu partout en Europe et au Luxembourg aussi, évidemment. On a eu le début de la crise ukrainienne avec la flambée des prix énergétiques. Et au Luxembourg, on a aussi, comme en France, un bouclier tarifaire qui fait que le prix du gaz, de l'électricité sont subventionnés par l'État. Donc là, le Luxembourg a quand même un petit peu brûlé ses cartouches financières, on va dire. Et la difficulté actuelle, c'est qu'on n'aura probablement pas autant de marge de manœuvre au niveau de l'État pour faire les pompiers, si je peux m'exprimer ainsi, ouvrir le carnet de chèques. Donc on va ouvrir le carnet de chèques en réfléchissant un peu plus. Simplement, maintenant, la situation est tellement, tellement préoccupante dans le secteur de l'immobilier qu'il y a quand même eu des mesures qui ont été annoncées, au moins pour cette année, donc certaines vont être temporaires, qui sont des mesures où on va aider les personnes qui veulent investir pour acheter un appartement en leur offrant la possibilité de déduire des choses de leurs impôts, de déduire les frais de notaire aussi. Donc il y a tout un tas de choses qui ont été mises sur la table pour essayer de relancer la demande.
Justement, l'accès au logement, ça faisait partie des grands axes, hein, Vincent, des axes majeurs, hein, notamment pour enfin relancer un peu l'activité. Aujourd'hui, on est selon vous sur de bons rails, d'après la Fondation IDEA, les dernières études?
Ce qui est vraiment très dur, c'est qu'on sait qu'avec la croissance et que la croissance démographique du Luxembourg, avec tous les gens qui arrivent et les gens qui aimeraient habiter dans le pays et qui ne peuvent pas parce que le logement est trop cher, il faudrait construire quelque chose comme 6000 logements par an. Or aujourd'hui on en construit entre 3 et 4 000 et en plus, donc ça c'est sur le long terme, et en plus vous avez cette crise qui arrive à ce moment là, donc où on va faire des chiffres, on n'a pas encore les chiffres pour 2023, mais on sera bien en dessous des 3 000 logements construits et surtout commandés, et donc du coup on va devoir, là il va falloir quand même mettre des choses sur la table, et l'État a par exemple décidé pour soutenir les promoteurs et pour éviter que des sociétés de construction se retrouvent à mettre des gens au chômage, d'acheter des appartements sur plan parce que les investisseurs et les ménages sont pas là pour les acheter, donc l'État a lancé un programme pour acheter un certain nombre de logements, plusieurs centaines sont visés dans les années qui viennent, et pour prendre le relais et augmenter aussi le parc qui sera mis à disposition à des bonnes conditions de loyer par exemple, parce que faut savoir qu'au Luxembourg il y a très peu de logements locatifs, c'est quand même une société où tout le monde est propriétaire, et ça c'est sur le long terme aussi quelque chose qui va peut-être devoir évoluer, parce que Luxembourg c'est quand même un pays où il y a beaucoup de monde qui arrive, des gens qui partent aussi.
Ça reste en mouvement, hein. Donc voilà. Il va falloir s'adapter à la conjoncture et aux professions.
Et c'est sans doute quelque chose qui manque dans la politique du logement au Luxembourg aujourd'hui, c'est un marché du logement locatif. Qu'il soit public ou privé, il va falloir augmenter le nombre d'appartements qui sont mis à la location. En gros, il va falloir faire feu de tout bois au niveau des banques, au niveau des communes, au niveau des constructeurs, au niveau de l'État, pour augmenter la capacité de construction, parce que sinon, on risque d'avoir un vrai problème sur le long terme. Donc cette crise de court terme, si elle est mal gérée, elle pourrait amener...
Il pourrait y avoir des conséquences assez impressionnantes. Hein.
Voilà. Ouais. Effectivement, et c'est aussi quelque chose... Le Luxembourg, c'est un pays qui rayonne largement sur la grande région, en Moselle, dans le Luxembourg belge et puis en Allemagne. Le fait que le logement soit de plus en plus inaccessible au Luxembourg va renforcer probablement aussi la demande sur le marché du logement ici, en Moselle. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir et qu'on commence déjà à voir sur les prix immobiliers. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'il y a aussi une hausse assez forte des taux d'intérêt ici en France. Mais paradoxalement, le secteur de la construction souffre peut-être un peu moins ici en Moselle, parce qu'il y a tous ces gens qui auraient voulu acheter au Luxembourg et qui ne peuvent pas, et qui du coup viennent acheter ici. Donc si vous voulez, ça c'est peut-être un effet positif de cette crise, c'est que le marché immobilier ici en Moselle, il souffre peut-être un peu moins.
Ouais, il y a peut-être un peu moins de douleur effectivement. En tout cas, Vincent Hein, on rappelle que vous êtes le directeur de la Fondation IDEA, on va rester avec vous encore durant quelques minutes pour parler de démographie, et on parlera bien sûr également de la question épineuse des impôts pour les frontaliers travaillant au Grand-Duché du Luxembourg. Et puis on vous demandera votre avis concernant les dernières annonces et ce fameux dossier épineux de la 31 bis. A tout de suite sur l'Heure FM, la radio Lorraine.
C'est dans l'actu, midi, midi 30 sur l'Heure FM.
C'est dans l'actu, seconde partie avec mon invité jusqu'à midi et demi aujourd'hui, Vincent Hein, le directeur de la Fondation IDEA au Grand-Duché du Luxembourg. Alors Vincent, après avoir évoqué cette petite faiblesse économique du Luxembourg, pour ne pas citer le mot déclin, on ne va pas être si alarmiste que cela, on a évoqué plein de thématiques dont les difficultés d'accès au logement, les secteurs industriels qui tirent la langue. Il y a aussi un autre phénomène qui touche le Grand-Duché du Luxembourg aujourd'hui, ça concerne le vieillissement de la population. Le Luxembourg est directement touché par ce phénomène, un peu comme le secteur mosellan d'ailleurs. Quels sont les dispositifs mis en place justement pour lutter contre cette population qui vieillit, qui a du mal à se renouveler?
Alors, y a plusieurs choses. Bon, déjà, le vieillissement de la population, on va dire que c'est un petit peu toute l'Europe occidentale et même l'Occident en général. Hein. C'est quelque chose de général. Le Luxembourg vieillit un peu moins que les autres pays européens parce qu'il a attiré énormément de monde. Et les gens qu'il a attirés, ben, c'est plutôt des gens entre 25 et 30 ans. Il y a aussi le fait qu'au Luxembourg, il faut le dire, si on parle des politiques de natalité, il y a quand même énormément de soutien, et ça, les frontaliers le savent aussi, parce qu'ils sont aussi éligibles.
Mais est-ce que Luxembourg, c'est pas juste un territoire de boulot, en fait, finalement ? Au lieu d'être un territoire familial, est-ce qu'on a envie de fonder des familles au Grand-Duché du Luxembourg ? On a un peu cette image-là, cette caricature-là, Vincent.
Je suis pas sûr, parce que par rapport à la France, les taux de fécondité sont pas forcément plus mauvais. Et puis, comme je le disais, c'est quand même aussi un pays où, justement, pour les jeunes, c'est peut-être plus attractif pour une jeune famille qui a un projet d'avoir des enfants que pour quelqu'un qui sort de l'université et qui a envie de profiter encore un petit peu et de sortir. Et donc, je dirais pas que c'est forcément un pays pas attractif. Enfin, je dirais pas que le pays manque d'attractivité pour les familles. Mais clairement, ça, c'est un des leviers, mais c'est un levier de très long terme. Tout le monde essaye de faire face à ça. Le Luxembourg, c'est plutôt avec l'immigration qui fait face au vieux.
Ouais.
Mais en fait, le principal problème vis-à-vis du vieillissement pour le Luxembourg, c'est pas seulement le vieillissement de la population luxembourgeoise, mais c'est aussi le vieillissement de la population dans les régions frontalières. Mmh. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On a un réservoir d'actifs qu'on avait en Lorraine, en Belgique et en Allemagne, qui est plus ou moins épuisé. Et le Luxembourg a encore des besoins de main-d'œuvre énorme, malgré le ralentissement économique actuel. Il y a quand même des projections qui montrent qu'il va falloir, continuer à recruter davantage de frontaliers et davantage de personnes qui viennent vivre au Luxembourg, si on arrive à construire les logements.
Si on y arrive, ouais, c'est encore une grosse question aussi.
Voilà, et c'est ce vieillissement de la population qu'il y a dans les régions voisines, c'est vraiment un challenge, parce que jusqu'à il y a quelques années, si je caricature un peu, ici, côté Lorrain, on était plus content que mécontent qu'il y ait le Luxembourg,
parce que, bien entendu.
On avait cette désindustrialisation et on avait le Luxembourg qui prenait les personnes qui pouvaient plus travailler dans l'industrie.
Avec des salaires assez forts.
Avec des bons salaires et du coup, il y avait une espèce de situation gagnant-gagnant. Le problème, c'est que maintenant, les entreprises en Moselle, elles ont aussi des difficultés à recruter. Donc, qu'est-ce qu'elles vont revendiquer vis-à-vis des pouvoirs publics en France ou des pouvoirs publics régionaux ? Elles vont dire, mais attendez, c'est quand même une concurrence dure pour moi, le Luxembourg. Et petit à petit, nous, ce qu'on analyse du côté luxembourgeois, et on essaye aussi de sensibiliser le gouvernement luxembourgeois là-dessus, la situation, elle a évolué. Et il va falloir aussi proposer une autre politique de coopération avec les régions voisines. Vous voyez, le vieillissement...
C'est peut-être le plus compliqué, hein, finalement.
Bien sûr que c'est là le plus compliqué. Et quand on voit les exemples que vous mentionnez à l'instant sur les infrastructures, sur un certain nombre de problèmes au niveau de la fiscalité aussi, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à parcourir.
Effectivement, justement, la fiscalité, parlons-en avec les impôts des frontaliers travaillant au Grand-Duché de Luxembourg. Cette année 2024 va être une année charnière, Vincent. On rappelle qu'après le tollé engendré par le début de la mise en application de la nouvelle convention fiscale entre les deux pays, c'était en 2021, ce qui avait parfois occasionné des hausses spectaculaires d'impôts, les travailleurs frontaliers présentant des revenus mixtes vont être fixés sur leur sort en cette année 2024. Qu'est-ce qu'on doit comprendre entre les lignes ?
Alors, tout ça, c'est très technique. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez un couple mixte, c'est-à-dire une personne qui travaille au Luxembourg, une personne qui travaille en France, vous avez un calcul de taux d'imposition qui est fait au Luxembourg et en France avec certaines formules. Et là, dans la nouvelle convention qui est passée maintenant il y a quelques années, cette convention, elle a été interprétée par l'administration fiscale en France comme la manière dont on va calculer les revenus qui sont gagnés au Luxembourg pourrait être défavorable à certains ménages. C'est très compliqué, ça dépend des cas, c'est presque du cas par cas, et c'est pour ça qu'il y a une étude qui a été demandée au service du ministère des Finances par la députée de Thionville, je pense, qui suit
Isabelle
le dossier
Roche,
d'assez
ouais.
près. Et moi, ce que ça m'inspire pour prendre un petit peu de recul par rapport à la situation, c'est que je crois que du côté luxembourgeois, parce que c'est surtout aux décideurs économiques et politiques luxembourgeois qu'on s'adresse, il faut qu'on prenne un peu plus au sérieux ces questions de coopération, y compris ces questions de fiscalité sur les frontaliers, parce que si la France décide de changer un mode de calcul de l'impôt, ça peut être quelque part pour un pays de près de 70 millions d'habitants, ça a fait peu d'impact. Mais pour le Luxembourg, ça peut avoir un impact considérable sur l'attractivité du pays si maintenant les gens se sentent un petit peu lésés par rapport à leurs impôts. Ça peut baisser l'attractivité du Luxembourg. Donc moi, ce que nous, on recommande à la Fondation IDEA, c'est que sur ces sujets, par exemple sur l'imposition du télétravail, le Luxembourg soit quand même un peu plus proactif plutôt que de dire systématiquement l'impôt est payé par les frontaliers, c'est comme ça, il reste au Luxembourg. Nous, on a fait des propositions pour qu'il y ait une partie de ces impôts des frontaliers. Ça ne changerait rien pour les frontaliers. Hein. Les frontaliers continueraient à payer leurs impôts au Luxembourg.
C'est quoi l'idée de faire un pot commun pour...
Oui. Pour moi, c'est ça l'idée, parce que ouais. là, ce qui va se passer, c'est que cet argent va aller en France. Il va alimenter les caisses du budget national français et il ne va pas profiter aux communes limitrophes pour pouvoir refaire des routes, construire des crèches, améliorer les transports, les transports en commun, etc. Donc, moi, mon idée, c'est l'idée qu'on défend, c'est qu'il y a une partie de l'impôt, notamment parce qu'il y a une augmentation du télétravail, ces fameux 34 jours, il y a une partie de l'impôt qui soit mise dans un pot commun et qu'on décide ensemble, entre la France et le Luxembourg, comment on investit cet argent, pour que vous voyez que cet argent il reste quelque part ici sur le territoire et qu'il profite aux frontaliers.
Mais les connexions sont assez fortes pour arriver à un projet tel que celui-ci, Vincent, on a du mal à l'imaginer.
On a du mal à l'imaginer, mais pourtant ça se fait ailleurs. À Genève, par exemple, il y a aussi un phénomène frontalier assez proche de celui-là,
oui.
de celui qu'on a chez nous, et il y a une partie de l'impôt des frontaliers qui est payée à Genève, qui est restituée aux départements et aux communes, et tous les ans, on a un rapport détaillé. Alors, ils ne décident pas ensemble ce qu'ils font, en tout cas, pas sur tout, mais il y a quand même des projets concrets qui ont été faits ensemble, et tous les ans, il y a un rapport, on dit, voilà, on a financé une cantine dans un collège, on a fait des choses qui profitent aux familles des frontaliers, vous voyez, cet argent, il profite aussi à Genève.
Un axe de réflexion à mettre sur la table. Vincent Hain, on va faire très vite parce qu'il nous reste une petite minute sur l'ORFM. On ne pouvait pas échapper à la question de la mobilité, notamment la 31 bis. Le préfet de la Moselle s'est exprimé il y a une dizaine de jours pour parler de la mise en service qui avoisinerait l'année 2032, le péage à hauteur de 4 euros pour un trajet Metz Luxembourg. Comment cela est perçu? C'était le branle-bas de combat en Moselle et même dans l'entièreté de la Lorraine ces derniers jours. Par contre, au Luxembourg, j'ai pas l'impression que ça secouait tant que ça la population.
Non, effectivement, c'est un sujet qui est un sujet très loin dans le débat public au Luxembourg. Et c'est d'ailleurs
pourtant, ça les concerne finalement directement.
C'est quelque chose que nous, on a tendance à regretter parce qu'on estime que le Luxembourg doit prendre une forme de leadership sur la manière dont on développe ce territoire et le faire avec les territoires voisins. Donc, par exemple, sur la question de la 31... D'une certaine manière, si je peux être un peu provocateur, je pense que l'économie luxembourgeoise, les décideurs économiques et politiques luxembourgeois devraient déjà être contents que l'État français ait décidé de le faire. Parce que d'une certaine manière, ça va évidemment profiter à l'économie luxembourgeoise.
Tout à fait.
Alors après, sur la question du péage, sur la question de comment on utilise la troisième voie pour mettre des bus, du covoiturage, etc. Quand on a préparé cette émission, Marco, on a regardé un petit peu les détails. On a du mal à les trouver.
Et
on
est aujourd'hui. Ça reste assez flou. Hein.
On est en 2024. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais on est en 2024. Ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années qu'on a des projections du nombre de frontaliers qui nous montrent qu'il va falloir, améliorer les choses. Ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on connaît les problèmes liés au réchauffement climatique et à la nécessité aussi de développer du transport en commun, y compris sur autoroute, parce qu'on peut aussi faire du transport en commun sur autoroute et du covoiturage. Et la stratégie, elle n'est pas claire. On ne la voit pas. On ne sait pas quelle est la stratégie entre quelqu'un qui partirait de Richemont pour aller jusqu'à Leudelange ou jusqu'à Luxembourg. On devrait savoir à peu près à quoi elle va ressembler, cette autoroute, d'ici à 2035. Et aujourd'hui, il faut avouer qu'on a encore un peu du mal à le savoir. Voilà, moi, une des manières d'utiliser cette troisième voie, ce serait évidemment de mettre des bus, des lignes de bus.
De prioriser,
pour que les gens qui sont dans les bouchons ou qui en plus doivent payer le péage se rendent compte que, en fait, elles pourraient ne pas payer le péage en prenant un bus, continuer à dormir ou à travailler ou à être plus détendu dans un bus qui roule plus vite et qui double les voitures. Vous voyez, c'est ce genre de projet qu'on devrait faire ensemble. Il devrait y avoir une conférence de presse entre la ministre des Transports luxembourgeoise, le préfet, le ministre des Transports français qui dit voilà, vous frontaliers, comment vous allez vous déplacer dans 20 ou 30 ans. Il faut un petit... Et c'est à partir de choses concrètes comme ça qu'on va apprendre à travailler ensemble et qu'on va aussi montrer aux citoyens que des choses sont faites dans l'intérêt de tous.
Et dans le bon sens en tout cas. Vincent Hain, directeur de la Fondation EDA, merci beaucoup.
Merci Marco.
Avec grand plaisir. On vous souhaite une très belle journée hein, les amis sur Lor FM, la radio Lorraine. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro d'Actu entre midi et 13h. Bonne journée.
C'est dans l'actu, midi 30 sur Lor FM.